Audivoix présente La nuit de la lecture. La peur.
J'ai peur, de Géraldine Koziak. J'ai peur de toutes ces filles dans les magazines. J'ai peur de la télévision, mais je la regarde. J'ai peur des hommes à moustache. J'ai peur d'une page blanche. J'ai peur de tous ces gens que je ne connais pas. J'ai peur, alors je rentre chez moi. J'ai peur. J'ai peur de la mélancolie dépressive. J'ai peur des pluies acides. J'ai peur d'être enceinte. J'ai peur que mon loyer augmente encore et que je ne puisse plus le payer. J'ai peur des gens à lunettes. J'ai peur de la pollution. J'ai peur de n'être bientôt plus qu'une maladie. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur que ma voiture tombe en panne. J'ai peur du nucléaire. J'ai peur de la fin du monde. J'ai peur du bourdonnement des mouches bleues. Boudin, disparaître, matin, bite, riche, fermeture, cancer, Panasonic, laser. J'ai peur de certains mots. J'ai peur des seringues. J'ai peur des fourmis rouges. J'ai peur de sortir de mon lit pour commencer la journée. J'ai peur de rater. J'ai peur des serpents. J'ai peur de certaines bandes. J'ai peur des arrivistes. J'ai peur aujourd'hui de demain. J'ai peur du succès. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de m'ennuyer quand je vais à des soirées. J'ai peur en voiture, surtout des autres. J'ai peur de perdre la page quand je cherche à lire quelque chose. J'ai peur des menteurs. J'ai peur de ceux qui abandonnent leurs chiens. J'ai peur que l'histoire se répète. J'ai peur de l'éparpillement. J'ai peur de n'être bonne à rien. J'ai peur de perdre mes cheveux et mes dents. J'ai peur d'oublier mes clés. J'ai peur des cérémonies. J'ai peur des cambrioleurs. J'ai peur des ondes négatives. J'ai peur des mathématiques. J'ai peur de me répéter. J'ai peur de certains bruits. J'ai peur des prises de courant. J'ai peur du sang. J'ai peur des monstres. J'ai peur de ne plus voir ma famille. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de me faire opérer des varices. J'ai peur de me répéter. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de devenir sourde. J'ai peur de la guerre. J'ai peur des changements de saison. J'ai peur quand je nage en pleine mer. J'ai peur que mon courrier se perde. J'ai peur des huissiers. J'ai peur des matchs de foot qui tournent mal. J'ai peur du Ku Klux Klan. J'ai peur des chasseurs, mais pas de mon père, mon frère, mon grand-père, mon oncle. J'ai peur des grands huit dans les fêtes foraines. J'ai peur des mystiques. J'ai peur de ne pas avoir le temps d'aller dans tous les pays du monde. J'ai peur de pourrir sous la terre et de puer. J'ai peur de ne pas aller sur la lune. J'ai peur de m'être trompé de religion. J'ai peur des racistes. J'ai peur des politiciens qui font de la politique pour eux. J'ai peur des gens qui mettent de l'eau dans leur vin. J'ai peur de manquer de temps. J'ai peur de n'être pas drôle. Blablabla.
Amokokadis, amanitsael, chrysanthème canine, morsure varicelle, migale tarentule, épine, porte-avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les bommettes, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleury, mérogis, la rue, l'horizon.
C'est un texte que j'ai écrit, et je vous dirai mon nom après. Si tu veux vraiment avoir peur, alors fais un voyage au plus profond de ta conscience. Alors tu déchireras le rideau qui mènera à tes pires cauchemars. Penche-toi sur ta vie et tu verras que la peur t'accompagne, car elle fait partie de ton être, elle est omniprésente. Regardez-vous dans un miroir, vous aurez peur de votre apparence, car elle ne saurait refléter ce que vous êtes vraiment. Vous espérez, mais ce que vous voyez vous semble différent. La peur est en nous depuis que nous sommes nés. Imaginez le bébé dans le ventre de sa mère, être expulsé dans ce monde inconnu et apprendre à respirer. Quelle peur avons-nous ressenti ? La peur est dans nos gènes, dans notre ADN. Sans elle, nous ne sommes rien. Alors faites-vous plaisir. N'ayez pas peur de vous faire peur, car elle n'évite pas le danger. On a peur du lendemain. On a peur de ne pas être à la hauteur. La peur fait partie de notre vie. C'est un sentiment humain inscrit dans notre cerveau reptilien. Alors n'ayez pas peur d'avoir peur. Une fois mort, je serai libéré de toutes mes peurs. Thank you.
La peur habite nos vies. La peur de perdre ce qu'on aime. La peur de mourir. La peur de souffrir. La peur du pire. La peur pour l'avenir sur cette planète. La peur de l'horreur. La peur du chaos. Nous pourrions continuer cette liste sans fin et qui nous renvoie à la peur de vivre et d'aller vers l'inconnu. Chacun réagit très personnellement lorsque la peur survient. Nous pouvons la fuir, l'enfouir. Celle-ci peut nous paralyser, nous sidérer et nous impacter sur notre prise de décision. Elle peut nous soumettre, mais peut aussi devenir un stimulant si nous acceptons de lui faire face et de l'accueillir avec tout ce que cela demande pour arriver à la dépasser. Cela me rappelle un conte zen très parlant à ce sujet. La guerrière et la peur. Il était une fois une jeune guerrière à qui son maître conseilla d'engager le combat contre la peur. Mais elle ne voulait pas le faire. Cela lui semblait trop agressif, effrayant, hostile. Mais le maître finit par la convaincre, non sans lui donner quelques instructions avant la bataille. Quand le jour du combat arriva, la jeune guerrière se tint d'un côté et la peur de l'autre. La première se sentait bien fragile et impuissante face à la seconde qui avait l'air tout vigoureux. Elle était grande et courroucée. Toutes deux avaient des armes, mais il fallait faire le premier pas. La jeune guerrière s'enhardit, avança vers la peur et se prosterna trois fois et lui demanda « Puis-je avoir la permission de me mesurer à vous ?» La peur, agréablement surprise, lui dit « Merci d'avoir tant de respect pour moi, mais il est rare qu'on sollicite ma permission. La plupart du temps, je m'impose, sans être invitée. » Alors la jeune guerrière lui demanda « Comment puis-je vous vaincre ?» La peur répliqua « Je m'approche de vous très vite et je vous fais anticiper négativement le résultat de notre combat. Voilà mes armes. Généralement, vous vous troublez et vous faites tout ce que j'ordonne. Mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Vous pouvez m'écouter, avoir du respect pour moi et même être convaincu de l'influence que j'ai sur vous, mais si vous ne m'obéissez pas, j'abandonne le combat. » C'est ainsi que la jeune guerrière apprit à vaincre la peur, en l'accueillant, sans pour autant lui laisser le dernier mot.
Est-ce qu'ils sont là, les cons ? Ah, ils sont pas là.
Le racisme comme peur de l'ennemi intérieur. Il importe maintenant de saisir en quoi l'actualité récente donne une parfaite illustration de cette puissance politique constitutive de la peur, pour la sauvegarde de l'ordre établi et pour l'accroissement du pouvoir étatique. Une utilisation politique de la peur qui transparaît particulièrement bien sous deux pôles a priori opposés, la peur du fascisme d'une part et le racisme de l'autre. Concentrons-nous d'abord sur le racisme. Le racisme que nous définissons comme l'oppression systémique d'une population différenciée sur la base de critères culturels ou biologiques n'est pas nécessairement ni essentiellement lié à la peur. Il est institué par des rapports de pouvoir, d'oppression et d'exploitation qui justifient après coup leur existence par un ensemble de discours portant sur la différence des populations ainsi racisées, identifiées, isolées et traitées comme une race différente. différence qui essentialise la dite population et fonde supposément en nature son exploitation de fait. Le terme de racisme recouvre donc deux éléments, des discours et des pratiques. Cependant, dans les nombreuses déclinaisons des pratiques et des discours racistes qui émaillent l'histoire, le racisme des régimes fascistes peut se distinguer par la tentative de liaison du racisme avec la peur. En effet, l'antisémitisme, pour ne prendre que lui, ne se contente pas d'isoler une population suivant des critères racistes, mais dans l'essentialisation fasciste de cette population se glisse l'idée déterminante de menace. Les Juifs ne sont non seulement une race inférieure, ils sont les ennemis intérieurs, les traîtres qui vendent la nation et organisent la débâcle militaire. Le faux protocole des sages de Sion est un exemple éloquent de cette figure récurrente du juif ennemi, ainsi que toutes les caricatures et dessins de la propagande nazie. C'est notamment à ce titre que l'extrême droite contemporaine se pose comme héritière du fascisme du siècle dernier. L'essentiel de sa rhétorique raciste est invariablement accompagné de l'idée de menace. Que celle-ci soit économique, les immigrés volent le travail des citoyens de souche, culturel, les musulmans ne sont pas compatibles avec la République, ou militaire, tout musulman est un terroriste en puissance. C'est sur ce versant essentiel de menace que repose toute idée de la nécessité de l'institution d'un gouvernement fasciste. La mise en scène de l'ennemi intérieur qui fait peser une menace immédiate et diffuse sur toute la société pose comme seule solution l'instauration d'un régime suffisamment puissant et déterminé pour purger la République de cette menace. Comme chez Hobbes, ce qui pose la nécessité de Léviathan est ce qui est plus fondamental que la haine dans le racisme propre au fascisme, c'est la peur. Celle-ci ne pourrait évidemment pas s'ancrer sans une situation réelle de misère et de détresse sociale, et une peur bien réelle et quotidienne liée à la précarité des conditions d'existence. Le racisme permet de substituer une cause simple et extérieure à une conjoncture plus complexe, politique et économique, liée à la société capitaliste en général et les crises qu'elle génère immanquablement. L'ennemi intérieur est donc l'ennemi idéal, parce que simple, d'autant plus simple qu'il s'inscrit opportunément dans une histoire et une culture profondément imprégnées de ce racisme depuis de nombreux siècles. La peur issue de la perception d'une menace venant d'une population racisée produit en enchaînement analogue à celui de l'état de nature et débouche sur la nécessité d'une attaque préventive. Elle est d'abord émotionnelle, haine, rejet, mais culmine très vite dans l'agression pure et simple, verbale ou physique. Au niveau politique, ce ne sont paradoxalement pas les partis les plus ouvertement racistes qui en retirent le plus de profit en tant que tels, ni les essayistes ou les intellectuels, mais l'État. Il voit sa puissance démultipliée, que l'on pense seulement à ce que l'instauration de l'état d'urgence a permis à celui-ci de réaliser en termes de répression, de contrôle et de restriction des libertés en général, sans compter toutes les autres lois dites sécuritaires. Et ce, autant dans ses domaines de compétences établis qu'en raison de l'instigation progressive des pouvoirs. L'exécutif commande au législatif, le législatif valide l'exécutif, le judiciaire se compromet pour plaire à l'exécutif. Consécutive à la personnalisation accrue du pouvoir étatique qui substitue aux règles supposées limiter l'exercice du pouvoir, un fait du prince qui accroît d'autant l'influence de la tête de l'État. Comme chez Hobbes, la peur conduit à la centralisation des pouvoirs dans la figure du souverain. Maintenant, les causes de l'accroissement du pouvoir étatique sont évidemment multiples. Et nous ne prétendons pas que l'utilisation fasciste du racisme telle qu'elle est entretenue par la parole publique et les médias dominants soit la seule. Mais il est évident qu'elle joue un rôle important et nombre de mesures prises au nom de la lutte antiterroriste ou des thématiques apparentées possèdent des effets visibles en termes d'impunité policière, d'augmentation de la portée de la puissance étatique, etc. Nous soutenons que cette augmentation se joue sur une utilisation du racisme qui n'est pas sans similitude à celle des régimes fascistes du siècle précédent où la figure des musulmans a remplacé en partie celle des juifs des régimes d'hier. Et contrairement à ce que l'on prétend d'ordinaire, ce ne sont pas les partis d'extrême droite qui profitent le plus de ce climat, mais l'institution que l'on nomme république ou état, indifféremment de la coloration politique de celui-ci ou de celui ou celle qui l'incarne.
Hier, en traversant la rue, je me suis reconnu tête nue, méconnu. J'ai changé de droit avec 10 ans de plus.
Faut que je me concentre. Faut absolument que je me concentre. Le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas la soif. Le problème, c'est de savoir comment je vais me... Ces pensées s'interrompirent avec le claquement sec de bois vert dans un feu crépitant. Son regard, qui jusqu'alors balayait distraitement la pièce sombre, scrutait maintenant le coin opposé, où les ombres de pins agitées par le vent dansaient la sarabande dans la lumière nacrée tombant du vasistas. Il y avait un homme debout dans l'angle. Une terreur plus grande qu'elle n'en avait jamais connue s'empara d'elle. Sa vessie, qui avait seulement paré au plus pressé lorsque Jessie dormait, finit de se vider en un jet chaud. Jessie n'en fut pas consciente, pas plus que du reste. Sa terreur lui avait ramené l'esprit de fond en comble. Elle ne laissa échapper aucun son, pas même un petit cri. Elle en était aussi incapable que de penser. Les muscles de son cou, de ses épaules, de ses bras, se liquéfièrent. Et elle glissa le long de la tête de lit, retenue simplement par les menottes, comme en pâmoison. Elle ne perdit pas connaissance, loin de là. Mais ce blackout mental et la totale impuissance physique qui l'accompagna était pire qu'un évanouissement. Quand la pensée tenta de ressurgir, elle fut bloquée par une muraille de peur, noire et insondable. Un homme dans le coin. Ses yeux sombres fixaient Jessie d'un regard hébété. Elle distingua la pâleur cireuse de ses joues hâves et de son front haut, alors que le dessin exact de ses traits se noyait dans le diaroma d'ombre qui jouait sur son visage. Elle vit des épaules tombantes, des bras ballants de gorille terminés par de longues mains. Devina des pieds quelque part dans le triangle d'ombre projeté par la commode, mais c'était tout.
Elle resta dans cette transe affreuse, paralysée mais consciente, tel un scarabée piqué par une araignée. Ayant perdu toute notion du temps, sauf que cela lui parut une éternité. Les secondes s'écoulaient et elle demeurait incapable de fermer les yeux, sans pouvoir non plus les détacher de son hôte si singulier. Sa terreur initiale commença à s'estomper, pour être remplacée par quelque chose de pire. Une horreur, une répulsion instinctive, atavique. Jessie comprit plus tard que cette aversion, la plus forte qu'elle ait jamais éprouvée, y compris peu auparavant, en voyant le chien errant s'apprêter à faire de Gérald son dîner, trouvait sa source dans la totale immobilité du visiteur. Entré discrètement pendant qu'elle dormait, il se bornait maintenant à rester debout dans un coin, masqué par l'incessant flux et reflux des ombres sur son visage et son corps, à l'observer avidement de ses grands yeux noirs hypnotisés, qui rappelaient à Jessie les orbites vides d'une tête de mort. La créature restait simplement debout dans son coin. Les bras écartés au-dessus de sa tête, Jessie avait l'impression de se trouver tout au fond d'un puits. Le temps passait, ponctué seulement par le clignotement borné du réveil. 12, 12, 12, 12, 12. Lorsqu'enfin une pensée cohérente s'infiltra dans le cerveau de Jessie, une pensée à la fois insidieuse et très réconfortante. « Mais il n'y a personne d'autre que toi ici, Jessie. L'homme que tu vois là-bas, c'est qu'un mélange d'ombre et d'imagination, rien de plus. » Elle s'efforça de reprendre une position assise, en tirant sur ses bras, grimaçant de douleur aux protestations de ses épaules trop éprouvées, poussant sur ses pieds pour planter ses talons dans le dessus de lit, laissant échapper de petits grognements d'effort, sans jamais quitter des yeux la longue forme hideuse dans le coin. « Il est trop grand, il est trop maigre pour être réel, Jess. Tu vois bien, non ? C'est rien que du vent, des ombres, un soupçon de clarté lunaire et quelques restes de ton cauchemar. D'accord ?» Presque. Jessie se détendit peu à peu. Soudain, dehors, le chien poussa une autre série d'aboiements hystériques. Et la silhouette dans le coin, la silhouette qui n'était que du vent, ombre et soupçon de clarté lunaire, cette silhouette qui n'existait pas, se tourna légèrement dans cette direction.
La petite musique me nuit. La première fois que j'ai entendu la musique de l'émission Les dossiers de l'écran, je devais avoir 6 ou 7 ans et j'étais seul dans la salle à manger, en train de débarrasser les restes du dîner. Eh bien, autant vous dire que, parlant de restes, je n'ai pas demandé le mien et j'ai filoché vite fait bien fait à la cuisine. Cette brève est l'une des quelques 250 qui se trouvent dans un recueil ayant pour titre « À demain, fermé le week-end ». Quelques notes de musique, donc, et, petit garçon, la solitude sans échappatoire de ce qui est ressenti. Peut-être est-ce à ce niveau que s'inscrivent les peurs de l'enfance. Quelles qu'elles soient, elles renvoient chacun d'entre nous à une inscription sans partage. Inscription avec laquelle il faudra désormais devoir composer seul. Voilà qui va à l'encontre de la résilience, ce mirage volontariste qui reviendrait à surmonter un choc traumatique. Pourquoi pas ? La médaille, même en chocolat, est toujours attrayante aux yeux du collectif. À ceci près, par exemple, concernant la réalité de celui ou de celle qu'enfant, la peur vient mordre, à ceci près donc que cette inscription laisse une encoche qui fera office de marque définitive. Surmontable, mais pas effaçable. Stigmate. Une marque témoin qui, effectivement, à terme, peut ne plus porter la charge affective, la peur, qui la caractérisait à son origine. Cette marque n'est plus alors que la marque de la peur. Ça n'est pas rien, la marque de la peur. Ça n'est pas rien déjà de pouvoir l'envisager. Eh bien, envisageons-la comme un reste. Celui qu'enfant, je n'ai pas demandé en fuyant cette musique. Ce reste, pourtant, se récupère. Cicatrice vivante, sans être une plaie ouverte, la marque de la peur donne accès à ce que la peur, elle, n'aura eu de cesse de vouloir effacer. La marque de la peur est un accès permettant à ce qui devait rester recouvert de pouvoir être extrait et d'advenir. En l'occurrence, ce qui advient, c'est un acte, une parole, bref, le discours d'une vie. Une vie alors marquée au sceau de ce qui sans cesse en fera désormais le grain, le courage. Courage. Après ce souvenir d'enfance, je vais maintenant vous lire un très bref passage d'un livre publié en 1963, « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier qui, lui, de courage, n'en manqua pas. Au point donc de soudain nous dire ceci au détour de ses magnifiques aventures. Il est temps de faire ici un peu de place à la peur. En voyage, il y a ainsi des moments où elle survient et le pain qu'on mâchait reste en travers de la gorge. Lorsqu'on est trop fatigué, ou seul depuis trop longtemps, ou dans l'instant de dispersion qui succède à une poussée de lyrisme, elle vous tombe dessus au détour d'un chemin, comme une douche glacée. Peur du mois qui va suivre, des chiens qui rôdent dans la nuit autour des villages en harcelant tout ce qui bouge, des nomades qui descendent à votre rencontre en ramassant des cailloux, ou même peur du cheval qu'on a loué à l'étape précédente, une brute vicieuse peut-être, et qui a simplement caché son jeu. On se défend de son mieux, surtout si le travail est en cause. L'humour, par exemple, est un excellent antidote. Mais il faut être deux pour s'y livrer. Souvent aussi, il suffit de respirer à fond et d'avaler une gorgée de salive. Quand cela demeure, on renonce alors à entrer dans cette rue, dans cette mosquée, ou à prendre cette photo. Le lendemain, on se le reproche romantiquement et bien à tort. La moitié au moins de ces malaises sont, on le comprend plus tard, une levée de l'instinct contre un danger sérieux. Il ne faut pas se moquer de ces avertissements. Avec les histoires de bandits et de loups, bien sûr, on exagère. Cependant, entre l'Anatolie et le Khyber Pass, il y a plusieurs endroits où de grands braillards lyriques, le cœur sur la main, ignorants comme des bornes, ont voulu à toute force se risquer et ont cessé de donner de leurs nouvelles. Pas besoin de brigands pour cela. Il suffit d'un hameau de montagne misérable et isolé, d'une de ces discussions irritées à propos d'un pain ou d'un poulet, où, faute de se comprendre, on gesticule de plus en plus fort, avec des regards de plus en plus inquiets, jusqu'à l'instant où 6 bâtons se lèvent rapidement au-dessus d'une tête. Et tout ce qu'on a pu penser de la fraternité des peuples ne les empêche pas de retomber.
« 26 mai 2021. Il y a eu un moment où il était seul à côté de moi et il se lève pour sortir. Mais je voyais qu'à tout moment il pouvait vriller. Du coup, je l'ai rappelé pour qu'il sorte de ses pensées et qu'il revienne avec moi. Et là, j'ai vu une autre personne. Le visage de papa, c'était lui, mais en jeune. Et après, il a commencé à me regarder bizarrement et à me dire « Tu veux quoi, ma chérie ?» Plusieurs fois, mais en mode bizarre. Et là, j'ai eu le sentiment où je sentais qu'il fallait pas qu'il reste avec moi. Du coup, je lui ai dit qu'il me faisait peur et que je voulais qu'il sorte. Et une fois qu'il s'est levé, j'ai crié maman le plus fort possible pour qu'elle vienne. J'avais tellement peur de lui. Mais je sais pas vraiment ce qui est vrai. Ne t'en fais pas, petite sœur, tu vas t'en sortir.
Peur, 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 peur. Elle se propage dans l'esprit entier. Peur, 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 peur. Ne les laissez pas gâcher votre esprit. Peur, 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 peur. Ne laissez pas vous mettre en arrière, derrière. Pour moi, nous vivons à l'ère de la peur. Tout ce qui nous entoure nous fait peur. Notre culture est basée sur la peur, mais c'est une peur subversive. Peur, 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 elle se propage dans l'esprit entier. Il y a longtemps, en grandissant sous un régime oppressif, la peur avait une cible claire. Désormais, la peur est enfouie sous des couches de désirs mal avisés. Elle est cachée derrière des normes socialement construites que nous essayons de suivre aveuglément. Elle est camouflée sous des couches de publicité inculquées à tous depuis un âge de plus en plus jeune. Peur, 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 peur. Ne les laissez pas gâcher votre esprit. Si vous vivez dans la peur, vous vivez alors enfermé et sans amour. Je vois un moment de prise de conscience. Je vois un moment d'idées et de changement. Un moment où nous allons concevoir notre avenir et surtout y croire. Mais je vois aussi le danger que nous ne pouvons oublier. Nous sommes inconstants et perdons facilement nos moyens. Nous devons donc agir sur notre avenir maintenant, de peur de l'oublier ou de penser que nous ne pouvons pas le changer et l'ignorer. Peur, 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 ne laissez pas vous mettre en arrière, derrière. Pense que tu peux, tu le feras. Pense que tu ne peux pas, tu ne le feras pas. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire qu'il peut réaliser. Peur, 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 peur. Ne vois-tu pas et ne remarques-tu pas? La solution est dans ton esprit. Winston McAnuff, Fear, 1982.
Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denburg n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle. Celui ou celle, George n'était pas très sûr, qu'il parlait à coups de trompe dans les émissions dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait deux touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne, chauve, et un énorme sourire clownesque, peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance plein de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de Georges. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. Georgie lui souria à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre. « Oui, bien sûr, je le veux. Bien sûr, je le veux, » fit le clown en riant. « Voici qu'il est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?» Extrait de ça, de Stephen King.
L'antre par une porte ouverte, la peur. Vous n'y avez pas fait attention, mais la porte était ouverte. Elle ne disparaît pas tout de suite. Elle ne roule pas comme une orange mécanique vers la sortie. Non, elle prend son temps. Elle s'installe, elle séjourne, elle campe. Elle s'offre un hôtel 4 étoiles. Avec hammam, sauna et tout et tout. La peur. Je pensais m'en débarrasser, vite fait. Lui donner un bon coup sur la tête. Ne plus la revoir. Mais elle réapparaît un matin. Alors que vous prenez tranquillement votre petit déjeuner, quand vos tartines viennent juste d'être éjectées du grille-pain. Et glan ! J'ai déjà essayé de la semer dans le labyrinthe de Shining, ce film d'où vous ne ressortez pas vivant si vous tombez dans les griffes de Jack Nicholson. Non, elle se plante là, derrière vous. C'est une petite voix qui chuchote dans votre dos. Fais pas ci, fais pas ça. Ne viens pas ici, ne va pas là-bas. Tais-toi, fais profil bas. Ne te lance pas. C'est risqué, c'est dangereux, c'est impossible, c'est la fin. Alors, la peur serait-elle le néant? Et si la peur n'est rien, alors c'est franchement débile d'avoir peur de rien. Pourtant, j'ai toujours peur. La peur, c'est le frein à main que je n'ose pas desserrer. C'est l'araignée sur le mur quand je m'endors. C'est l'eau bleue. Le plongeoir est décidément trop haut. Je brode, je me fais des films. J'ai vu Seven et Sixième Sens. La peur. Et après, que se passe-t-il juste après ? Peur des autres, peur du réchauffement climatique, peur de l'extrême droite, peur du loup, peur de moi-même, peur de tout. La peur appelle l'inaction, le blocage. Elle ne met pas en route un processus qui permettrait de l'enrayer. Elle se nourrit d'elle-même, elle enfle, elle gonfle, elle s'empiffre même. Quand je la regarde, je la trouve moche, ma peur. Oh, elle n'a pas la classe. Elle est habillée comme un sac, mal fagotée. Elle fait pitié, même. J'ai envie de lui dire « Casse-toi,
Tu es encore au milieu du chemin? Qu'est-ce que tu fous là? Mais il faut croire qu'elle m'aime, qu'elle est attachée à moi, qu'elle ne peut pas me quitter. Comment faire pour m'en débarrasser? Car je la connais depuis toujours quand même. Et puis, c'est confortable de conserver ses habitudes, non? Alors j'accepte qu'elle m'accompagne au quotidien, qu'elle se lève en même temps que moi et qu'elle partage ma vie. Car j'ai réfléchi. L'éliminer complètement, ce serait aller vers l'inconnu, un monde complètement nouveau. Et ça, ça me fait vraiment flipper.
Vous écoutez La Nuit de la Lecture sur RDOA, 107.5 et 101.7. FM.
Nos actualités. Nos informations ne sont faites que d'arbres qui tombent. Le monde aurait disparu depuis bien longtemps si ceci était l'unique réalité. Le monde tient debout par ce réseau d'amour que nous créons, vous et moi, chaque jour, et tous ces êtres qui, en cet instant, sont en train de faire quelque chose. Des actes dans le monde. Un regard de tendresse pour la terre qui nous entoure, pour la création. Cela tient le monde debout. Il ne s'agit pas de se détacher du monde, mais de le rencontrer à partir d'une autre force. Quelque chose en moi sait que rien ne peut m'arriver, que rien ne peut me détruire. C'est ce noyau infracassable en nous, ce noyau infracassable du divin en nous. Alors la peur cesse, et quand la peur cesse, il y a un drôle de morceau de moins d'horreur sur la terre. Parce que la peur est la plus grande créatrice de réalité qui existe. Ce dont nous avons peur, nous le créons presque irrémédiablement. C'est quelque chose d'effarant. Vous avez dû le remarquer dans votre vie. La peur a le pouvoir d'engendrer images et réalités. Dans l'univers d'épouvante dans lequel nous vivons, tout tient par la peur. Il faut y répondre en congédiant en nous la peur, en reprenant contact avec ce noyau infracassable qui nous habite.
Si la peur fait bouger, elle fait rarement avancer. c'est l'image avant tout. La pensée t'emberne quand le discours reste flou. Ça va être dur, tu vois, dans le marc d'un café. On n'y voit jamais plus clair que dans la boue des affaires. On avance et méfiance à l'approche de la date. Au vote à réaction dans la dernière ligne droite. Si la peur fait bouger,
bonsoir tout le monde. Je vais vous emmener un petit peu en voyage dans le passé et je vais vous lire quelques extraits des carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918. Chaque matin, on y portait quelques malheureux décédés au poste de secours des secteurs voisins. Rien n'était plus triste que de voir une haridelle efflanquée traîner un vieux tombereau sur lequel 2, 3, 4 cadavres étaient cahotés, simplement enveloppés dans une toile de tente boueuse, leurs jambes aux molletières et souliers maculés dépassant à l'arrière du tombereau trop court. Un aumônier sous son manteau, accompagné par un soldat séminariste, suivait derrière et constituait toute l'escorte avec 3 ou 4 vieux territoriaux transformés en fossoyeurs, pelle et pique sur les épaules. Ainsi s'en allait-on au champ d'honneur, ceux dont le sort, chante-t-on, est digne d'envie. Le 29 février, notre bataillon partit à 6h du soir pour aller en première ligne relever un des bataillons qui s'y trouvait. Le temps qui avait paru vouloir s'améliorer dans la journée se gâta le soir et nous fûmes agrémentés pour aller aux tranchées de fort désagréables averses. Le 15 avril, après la soupe du matin, le régiment s'achemina vers Noyelles-sur-Mer pour s'y embarquer en chemin de fer, pour destination officiellement inconnue. Mais tous avaient le pressentiment qu'on allait à Verdun, où la bataille géante se continuait sans interruption. Ainsi, on entend des guerres de chants pendant le parcours de 10 km qui nous séparait de Noyelles. Cependant, certains se raccrochaient à la vague espérance qu'on allait rejoindre notre corps d'armée dans l'Oise. D'autres disaient avoir des tuyaux, qu'on allait prendre un secteur en Champagne. À 7h du soir, empilés dans les wagons à bestiaux, au nombre de 40, sans paille ni banc, le train nous emporta. Le colonel lui-même ignorait où. Il n'y a pas de petite musique pour tourner les pages, mais on entend la musique des pages. 1916, la défense de Verdun, la côte 304. Le jour parut et je contemplais cette fameuse côte sans nom, au pied de laquelle se trouvait notre tranchée. Depuis plusieurs mois, elle était disputée comme si elle contenait dans ses flancs des mines de diamants. Hélas, elle ne contenait que des milliers de cadavres déchiquetés et pulvérisés. C'était une colline qui ne se différenciait en rien des collines voisines. Il paraît qu'elle était en partie boisée, mais il n'y avait plus trace de végétation. La terre convulsée, bouleversée, n'offrait plus au regard qu'un spectacle de désolation. Toute la journée, nous restâmes terrés et serrés dans cette tranchée couverte, où nous souffrîmes du manque d'air et de la chaleur. Mais les avions Bosch n'ayant pas su nous repérer, nous ne fûmes pas marmités. C'est avec impatience que nous attendions la nuit pour pouvoir marcher et respirer à notre aise. Mais à la tombée de la nuit, notre compagnie reçut l'ordre d'aller occuper une tranchée quelques centaines de mètres en avant. Séparément, par escouade, nous nous y rendîmes. Le terrain était bien plus bombardé qu'aux environs du moulin d'Aisne, et je crois bien que la nécessité stratégique qui nous faisait venir là était tout simplement le souci de sécurité de notre colonel, dont l'abri profond se trouvait à proximité. Homme de liaison à la côte 304 un jour d'attaque n'était pas une sinécure, mais je m'offris spontanément. Je ne me dissimulais pas les dangers que je courais, mais si je devais y rester, je préférais 100 fois mieux mourir un pli à la main qu'avec un fusil qui viendrait peut-être de tuer un travailleur comme moi, un frère de misère, de souffrance. Non, je ne disparaîtrais pas avec ce remords sur ma conscience d'humanitaire, de socialiste. 5 minutes après, j'étais devant l'abri de la liaison à 50 mètres de celui où étaient terrées nos 2 vieilles connaissances, 15 grammes et le Crown Prince. Mauvais abri, simple escalier, d'une 12aine de marches où Fourier, Brancardier, Planton s'entassaient. Au fond, un petit carré où 4 joueurs enragés, dont un major, faisait une manie. Major et Brancardier n'avaient de besogne que la nuit, pendant laquelle il était seulement possible de transporter les blessés. Faute de place sur les marches de l'abri, je dus rester sur le seuil, dans le boyau peu profond qui y amenait. À ce moment, défilait une compagnie de renforts. Les hommes passaient, les yeux hagards, le visage terreux, ruisselant de sueur, brûlé de soleil, s'aplatissant à terre à chaque sifflement d'obus qui tombait, en grand nombre, à 60 ou 80 mètres environ, au-delà de l'abri auquel ils étaient sans doute destinés. Ah, journalistes de malheur qui affirmiez cyniquement que nos soldats escaladaient la côte 304 et le mortum avec entrain et furie et en chantant, et dont les chefs ne pouvaient modérer l'élan, que n'étiez-vous là cet après-midi pour assister au lamentable défilé de ces loques humaines? On eût dit un troupeau de moutons qu'on menait à l'abattoir, mais au moins les moutons ignorent leur sort jusqu'à la minute où on les abat, et ils peuvent supposer qu'ils vont paître paisiblement au champ, au pré. Ils passaient isolés ou par petits groupes, s'arrêtant, se cachant, épouvantés d'entrer dans cette fournaise. Quelques-uns restèrent jusqu'au soir au seuil de l'abri sans que personne ne se souciât d'eux. D'autres se tapirent dans un abri à moitié défoncé à côté du PC de commandement. À un moment, le capitaine-major Crowe, ayant mis le nez dehors, aperçut ces derniers et leur intima l'ordre de rejoindre leur compagnie. Mais ceux-ci refusèrent catégoriquement de partir. « Nous ne rejoindrons, dirent-ils, qu'à la nuit. » Le capitaine ne disposant pas des moyens de les faire déguerpir, les gendarmes ne s'aventurant pas en ces lieux, disparut rapidement dans son terrier. Lorsqu'un pli à la main, un Fourier ou l'adjudant de bataillon, le Péraquois Calvet, apparaissait à l'entrée de l'abri, il y avait un silence poignant. Quel numéro de compagnie allait-on prononcer? N'était-ce pas un arrêt de mort pour celui qui allait partir seul vers les premières lignes, véritable défi à la mort? Celui qui était désigné pâlissait parfois, mais sans hésitation, s'élançait résolument et quelquefois ne revenait pas. Plus tard, j'ai lu un livre du capitaine Henri Bordeaux, académicien, « Les derniers jours du fort de Vaux », où il y a beaucoup de bourrages de crâne. Il écrit en parlant des hommes de liaison, « Si l'un tombe, un autre aussitôt le remplace ». Ceux qui restent sont toujours dispo, ils offrent même leur service avant que leur tour soit venu. Pour un peu, cet académicien dirait qu'ils étaient heureux d'aller se faire tuer. En temps ordinaire, être homme de liaison, c'était avoir un bon filon, n'en était pas un qui voulait. Dans un mauvais secteur, il fallait bien qu'ils accomplissent leur besogne, mais de là à offrir leur service avant leur tour. Af, défait, les traits tirés, je trouvais là mon compatriote, le Péraquois Julien Chiffre, qui avait échappé par miracle au moins 10 fois à une mort certaine. Aujourd'hui, dit-il, c'est le plus terrible. Il me confia que, désespérant de s'en tirer, il venait de se confesser à un prêtre brancardier et, s'agenouillant, il se mit à prier. J'essayais de lui remonter le moral et lui affirmais que j'avais bon espoir de sortir vivant de ces lieux. « La relève est pour la nuit prochaine. Allons, courage, lui dis-je, tenons jusque-là. » À ce moment, l'espoir était bien illusoire. La canonnade atteignait un degré de violence inouï. Les communiqués rapportèrent que cet après-midi, des aviateurs survolant la côte 304 ne purent l'apercevoir, masqués par une fumée intense, déchirée d'éclairs. Quant à moi, personne ne m'appela, ne me demanda ni ne s'occupa de moi. Je me demande encore pourquoi on m'avait fait venir là.
La page.